Et une semaine au cœur de la profession de vétérinaire avec le docteur David Mathurin, clinique vétérinaire à Limoges. Vétérinaire, ça fait partie des grands classiques. Quand on est enfant, qu'est-ce que tu veux faire? Petit garçon, petite fille, c'est vétérinaire. C'est encore une image tenace aujourd'hui?
Ah oui, on a beaucoup de stagiaires collégiens qui rêvent depuis l'âge de 5-6 ans de devenir vétérinaire. Très souvent, c'est un choc quand ils arrivent à la clinique parce que l'image d'Épinal qu'ils ont et puis l'image un peu plus moderne qu'on a maintenant de vétérinaire mobile, très disponible et puis beaucoup dans la technologie, c'est quelque chose qui est parfois pas facile à gérer pour eux. Mais c'est vrai que même dans notre motivation à nous au départ, il y a l'amour des animaux en premier. Le fait d'être avec des animaux toute la journée qui ont des sentiments qui sont très naturels et du coup c'est une relation vraiment intense. Et très simple avec les animaux, qui nous plaît beaucoup.
En ce qui vous concerne, c'était le rêve de petit garçon ou alors c'est venu un peu plus tard?
Non, moi, même si l'amour des animaux a toujours été présent, ça a été une révélation tardive. Vers l'âge de 14-15 ans, je me suis posé la question de savoir ce que je voulais faire dans la vie. Il y a mon oncle, en l'occurrence, qui m'a dit « Mais tiens, j'ai un vétérinaire à côté de chez moi, je pense que c'est quelque chose qui doit te plaire. » Donc j'ai été le suivre. C'était un vétérinaire qui faisait de la rurale, donc il travaillait avec les vaches, les cochons, etc. Et donc je l'ai suivi jour et nuit pendant un week-end et ça a été d'emblée un enthousiasme énorme de pouvoir faire autant de choses dans une journée, rencontrer autant d'animaux et j'ai vraiment été épaté par la qualité de vie et le style de vie qu'il avait là.
Alors ça c'était le premier contact, mais alors après il y a évidemment la longue formation parce qu'on ne devient pas vétérinaire du jour au lendemain.
Non, alors une fois qu'on a passé le premier coup d'enthousiasme, il faut se remettre à travailler parce qu'il faut déjà passer le bac. Et ensuite il faut passer le concours. Le concours est ardu en France. J'ai la chance d'être belge, donc moi j'ai fait mes études en Belgique, j'ai pas passé de concours du tout. Ça n'empêche qu'il y a 6 ans d'études en Belgique, la même chose qu'en France. Ça, maintenant, c'est harmonisé, des études scientifiques, médicales, où on rencontre d'autres professions, les pharmaciens, les géologues, les physiciens. On a des troncs communs de formation. Et puis, on évolue dans ces études. On part d'une idée de vétérinaire classique. Et puis, certaines spécialités apparaissent au fur et à mesure des années. Et puis, on se dirige petit à petit vers le modèle qu'on avait choisi.
Il y a aussi une partie donc pratique également pendant cette formation?
Oui. Alors, on a d'abord un enseignement théorique, mais au bout de 3 ans, on a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des cliniques, c'est-à-dire tous les matins, au lieu d'aller en cours, on va en consultation avec des professeurs, avec des assistants, et on est directement en contact des patients, ce pendant les 3 dernières années des études.
Faut quand même attendre 3 ans, c'est pas trop dur, pas trop long.
Alors moi j'ai pas réussi à attendre et donc toutes les vacances et tous mes week-ends pratiquement j'allais suivre des vétérinaires dans ma région, à la fois des vétérinaires ruraux, donc j'allais faire des césariennes, j'allais mettre les mains dans le ventre des vaches et également donc des vétérinaires canins qui travaillent en ville pour peu être au contact du métier, parce que sinon on a tendance à perdre la motivation. Hein.
On a un petit plus quand on s'est occupé aussi d'animaux à la campagne, ça permet de compléter un petit peu cette expérience importante.
Je pense que ça donne un éclairage sur la relation à l'animal qui est différente, et c'est vraiment enrichissant au niveau personnel.
Deuxième rendez-vous au sein de la profession de vétérinaire. Nous sommes toujours en compagnie de David Mathurin, vétérinaire à Limoges. Alors là, on est concrètement, pour situer un petit peu les choses, dans la salle d'hospitalisation. Et c'est là qu'ils peuvent se requinquer un petit peu.
Oui, exactement. C'est un local qui nous permet à la fois de garder les animaux le temps de leurs soins et de leur chirurgie, mais également, vous voyez juste à côté ici, des tables qui nous permettent de préparer les animaux quand ils doivent subir des soins ou des chirurgies. Donc c'est un peu l'hôtel des chiens et des chats. On essaye de rendre ça le plus confortable possible. C'est pour ça qu'il fait bon. Et puis très souvent, on leur met également de la musique.
Donc une capacité de combien d'animaux?
Ici à la clinique, on a une capacité qui va jusqu'à 30 animaux différents. En gros, moitié de chiens et moitié de chats. On ne les atteint pas toujours, heureusement, ils ne sont pas toujours aussi malades, mais très souvent, on a entre 10 et 15 animaux en permanence à la clinique.
Alors, ça veut dire que vous gérez tous les actes médicaux de la vie d'un animal, donc du premier acte qui sera peut-être le premier vaccin, jusqu'au dernier soin. C'est vraiment, on peut faire accompagner son animal ici du début à la fin, et c'est quelque chose auquel vous tenez. C'est vraiment, vous êtes quasiment le médecin de famille pour l'animal.
Oui, j'aime particulièrement cette relation parce que on découvre un animal et en général on découvre les clients en même temps. À la première visite, une fois qu'ils ont adopté ou acheté un animal, ils se retrouvent avec plein de questions en tête et ils viennent nous voir en général pour se rassurer, pour commencer à tisser une relation avec nous. Et puis tout au long de la vie de l'animal, on va vivre les moments de joie, les moments parfois un peu plus difficiles quand ils sont malades, jusque à la fin, si possible, la plus lointaine possible.
C'est-à-dire que vous avez besoin de connaître les maîtres pour peut-être bien comprendre les animaux, leur comportement, leur réaction aussi?
Oui, de toute façon, comme les animaux parlent pas, on est obligé de questionner les clients pour arriver à poser un diagnostic. La manière dont ils vivent leur relation va être très très importante pour nous, à la fois dans le choix des thérapies et également dans le diagnostic.
Alors pour vous, c'est aussi une relation particulière que vous nouez avec ces animaux, là par exemple, qui nous entourent. Alors vous êtes plusieurs vétérinaires évidemment, mais comment on arrive à faire la part des choses entre le domaine professionnel et la clientèle, et puis aussi cette relation qu'on ne peut pas contrôler, d'attachement forcément à un animal?
On est bien sûr extrêmement attaché aux animaux qu'on va revoir, et surtout les animaux avec qui on a eu des moments difficiles, souvent des hospitalisations longues. Ici juste à côté, il y a un petit chien qui malheureusement s'est fait écraser la patte par une voiture et qui est avec nous déjà depuis pas mal de jours et qui va encore rester. On finit par s'apprécier mutuellement.
Il y a aussi cette relation avec les maîtres, on vous confie quasiment les enfants, hein.
Ouais, il y a une vraie confiance et puis il y a un vrai challenge à relever aussi pour le vétérinaire, parce que on sent quelquefois beaucoup beaucoup de stress et d'attente quand les animaux restent chez nous, et donc on fait au mieux pour pouvoir à la fois rassurer le chien qui reste chez nous et qui doit vivre avec nous, et puis rassurer les propriétaires qui eux sont à la maison tout seuls, et en général les maisons sont bien vides quand les animaux sont partis.
Alors après, il y a la partie hospitalisation, on l'a dit, chirurgie, c'est une grosse partie du travail également.
Oui, ici à la clinique, on est organisé avec en deux équipes, on va dire, deux chirurgiens et deux médecins, et donc tous les jours, toutes les matinées, il y a des chirurgies de tout ordre. On va opérer des fractures, on va opérer des chiens paralysés, des plaies ou des tumeurs. On remarque que la demande des gens est croissante quant au degré de médicalisation et quant à la volonté de vouloir les garder en vie le plus longtemps possible.
Troisième rendez-vous dans l'univers des vétérinaires. Nous découvrons cette profession avec David Mathurin, vétérinaire à Limoges, je le rappelle. Alors là, on va parler haute technologie. C'est vrai que quand on emmène son animal chez le vétérinaire, parfois on se dit ça va me coûter un bras, mais il y a peut-être des raisons à cela.
Oui, effectivement, tout vétérinaire a au moins une radio, une échographie. Ici, en plus, on a tous des moyens d'investigation de type endoscopie, c'est-à-dire qui vont nous permettre de poser des diagnostics précis avec très très peu de moyens invasifs, pas de chirurgie. On a un laboratoire complet également. Donc tout ce matériel va représenter un certain coût pour la clinique, et donc qui explique directement le prix qu'on paye en général quand on va chez le vétérinaire. Maintenant, on va même s'équiper d'un scanner, donc ça nous permet des avancées en diagnostic et des avancées en thérapeutique qui sont énormes. Je ne dis pas qu'on est au niveau de la médecine humaine, mais on s'en rapproche fortement. Rien qu'avec trois petits trous sur le ventre, on arrive à stériliser un chien ou une chatte. On arrive également maintenant à faire des images de médecine grâce à de l'IRM. Donc c'est du matériel qui coûte extrêmement cher, mais qui permet aux vétérinaires d'apporter un confort et une qualité de traitement nettement supérieure à ce qu'on pouvait connaître avant.
Il n'y a pas un effet pervers aussi? La clientèle, les propriétaires n'ont pas l'idée qu'aujourd'hui on peut tout faire et qu'on pourra de toute façon toujours soigner les animaux?
C'est souvent une question qui nous est posée. Alors, en général, c'est pas au vétérinaire à poser la limite. Le vétérinaire propose et les gens se rendent bien compte que de temps en temps, la médecine ne pourra pas répondre à tout. Ça rend aussi très humble d'être médecin parce que tous les jours on est confronté à la mort, tous les jours on est confronté à la fin de vie des animaux. Et ça permet d'avoir un regard sur la mort qui est très respectueux, on va dire.
Là aussi, c'est difficile d'arriver à mettre un petit peu de distance entre la douleur de la famille et puis de soi-même aussi. En tant qu'amoureux des animaux, c'est toujours difficile de ne rien pouvoir faire pour un chat, un chien.
C'est très compliqué. On essaye d'avoir la satisfaction du travail accompli, on va dire, d'avoir fait le maximum. Et c'est une maigre satisfaction, mais c'est quand même une satisfaction qui permet de passer ce mauvais moment avec plus de sérénité et que les gens sachent qu'on est auprès d'eux jusqu'à la fin. C'est quelque chose qui leur fait du bien et puis nous derrière on se sent un petit peu utile.
Ça veut dire que le dialogue c'est extrêmement important dans la relation entre l'animal, le vétérinaire, les propriétaires.
Oui, tout le temps, toute la journée, on est des grands parleurs. On fait à 80% du temps, c'est discuter avec les gens, avec les animaux.
On parle avec ses animaux. Alors vous conseillez de parler avec son animal ?
Bien sûr, il faut lui expliquer ce qu'on fait. Il faut avoir des discussions philosophiques avec lui. Il comprenne tout.
Donc ça veut dire que il y a des moments difficiles, mais d'une manière générale, on parle quand même d'amour avant tout, des belles relations.
Exactement. Ils ont un grand nombre de sentiments. Et ils peuvent comprendre très très bien les relations humaines et les sentiments qu'on peut avoir entre nous et puis envers eux également.
Notre quatrième rendez-vous dans l'univers des vétérinaires. Nous sommes toujours avec David Mathurin, vétérinaire à Limoges. Là, on est dans le laboratoire. Là aussi, c'est des technologies qui ont beaucoup évolué durant les 10 dernières années.
Oui, effectivement, on est amené à réaliser en urgence sur la clinique un certain nombre d'analyses de sang. Et comme ce sont des analyses spécifiques, on ne peut pas utiliser les laboratoires humains classiques, conventionnels. Donc on est obligé d'avoir un laboratoire interne à la clinique qui nous permet de réaliser un grand nombre d'analyses sanguines directement sur place.
Donc c'est aussi rapide et aussi complet, on peut savoir autant de choses que sur des analyses humaines.
Oui, tout à fait. On a des bilans complets au niveau sanguin, au niveau des bilans hépatiques, rénaux. On arrive à diagnostiquer certaines pathologies infectieuses également. On a des microscopes qui nous permettent d'aller rechercher des parasites, d'aller inspecter des cellules dans des ponctions qu'on serait amené à faire ou des grattages sur la peau. Donc on a vraiment un grand panel d'examens complémentaires ici au laboratoire.
Alors vous voyez des animaux venir, toutes sortes d'animaux. On a eu un petit changement quand même. On est passé du gros chien mastoc plutôt au petit chien, plutôt au chat, c'est ça ?
Oui, voilà, parce que c'est actuellement on a envie de bouger, on vit dans des espaces plus restreints et c'est plus facile de prendre le chien sous le bras que de porter le berger allemand de 45 kilos ou le grand danois qui fait 1m10, c'est moins facile à mettre dans le coffre. Donc de plus en plus de gens se tournent vers des animaux de petite taille ou des nouveaux animaux de compagnie, des furets notamment, hein, des animaux qu'on utilisait au Moyen-Âge pour chasser les souris dans les granges, maintenant sont devenus des animaux de compagnie qu'on voit extrêmement fréquemment ici à la clinique.
Alors ça veut dire que forcément pour vous le métier a évolué, on vous a un petit peu initié à tous ces NAC. Hein.
Oui, on commençait à en parler, effectivement, on a eu quelques cours là-dessus à l'école, maintenant ça nécessite en permanence d'être remis au goût du jour, donc on fait énormément de formations au cours de l'année dans tous les domaines pour se tenir à jour parce que la médecine évolue beaucoup et nos patients également changent. On soigne maintenant des rats, des souris, des reptiles également. Donc il y a pas mal d'évolutions dans la médecine. On découvre tous les jours des nouveautés en médecine vétérinaire.
Ce qui est plutôt positif, ça permet de se remettre un petit peu en question au quotidien et de pas avoir cette lassitude et cette routine.
Oui, je pense que même à 65 ans, je ne connaîtrai pas tout et on aura toujours à découvrir.
L'animal le plus surprenant que vous ayez eu à soigner à la clinique ?
Alors c'était pas à la clinique, mais c'était du temps de mes études. On avait été appelé en urgence dans un cirque pour soigner des tigres du Bengale qui étaient malades, qui avaient de la fièvre, 200 kilos chaque tigre, et ils étaient deux. Donc ça a été tout un périple. J'avais l'impression d'être un aventurier parce que c'était vraiment pas des animaux évidents à soigner.
Et notre dernière escale dans cette profession de vétérinaire avec David Mathurin, vétérinaire à Limoges. On va continuer et terminer d'évoquer cette profession qui est la vôtre depuis quelques années maintenant. On va se spécifier de plus en plus, comme on a le médecin généraliste et on a les spécialistes à côté. Pour les animaux, c'est exactement la même chose.
Oui, du fait de cette évolution des connaissances et de ce besoin accru de compétences, on est obligé, en médecine vétérinaire comme en médecine humaine, d'avoir de plus en plus de spécialistes. Donc, en fait, il reste un vétérinaire généraliste qui doit être compétent un peu dans plein de domaines, parce qu'on est aussi bien chirurgien que médecin, que dermatologue, qu'ophtalmologue. Mais de plus en plus de centres de référés spécialisés se développent, dans lesquels les compétences sont bien partagées. Ça permet tout simplement de devenir meilleur dans son domaine et de partager les connaissances avec d'autres spécialistes en France et puis en Europe.
Ça veut dire aussi que c'est très réglementé, hein, évidemment. Vous êtes chapeauté, on ne fait pas n'importe quoi, un vétérinaire n'est pas là sans contrôle, il y a vraiment des limites très définies.
Oui, on a déjà l'instance ordinale, on a l'ordre des vétérinaires qui gère un peu toutes les relations qu'on peut avoir entre vétérinaires, et puis il y a des dispositions légales aussi qui obligent par exemple d'avoir un diplôme d'une école vétérinaire pour être vétérinaire, mais également pour être déclaré spécialiste, il faut faire 4 ans d'études supplémentaires qui seront diplômées par un collège européen et qui permettront d'arriver à un diplôme de spécialiste. Les gens qui veulent cette relation avec les animaux, mais qui ne se sentent pas à la force d'aller faire des années d'études, peuvent très bien se destiner à la profession d'auxiliaire vétérinaire, c'est 2 années après le bac, ou alors même sous forme d'apprentissage avant le bac.
L'avenir de votre profession, vous le voyez comment ?
En rose. Je pense que on est amené à toujours évoluer dans notre profession, avoir de meilleurs services, augmenter la qualité de nos soins, augmenter la qualité des prises en charge et peut-être découvrir toujours d'autres méthodes de soins et d'amélioration de la qualité de vie de nos animaux.
Parce que la place de l'animal aujourd'hui dans notre société, elle est grandissante.
Je pense que même si ils sont plus représentés en aussi grand nombre nécessairement que ce qu'ils avaient pu être dans le temps, la relation qu'on a avec eux est de plus en plus forte. Il devient vraiment un élément de la famille intimement apparenté à elle, et donc le parcours de vie qu'on a envie d'avoir avec eux devient très très important.
Votre plus belle histoire, celle qui vous a peut-être le plus marqué dans tout votre parcours ?
Alors je me souviens d'un monsieur qui m'avait amené un gros Saint-Bernard 60 kilos qui avait 2 ans, qui était très jeune, et d'un seul coup il s'était mis à être pas bien, à ne plus vouloir manger sa gamelle. En faisant des examens, on observe quelque chose de bizarre dans l'estomac. J'ai passé ma sonde et le chien avait mangé 2 jouets coup sur coup, des jouets en plastique qu'il avait voulu lui offrir. Ça fait partie des découvertes fréquentes, hein, qu'on a chez nous. On trouve de tout, hein. Nos animaux sont très coquins, mangent des torchons, mangent des fruits avec les pépins et les noyaux. Tous les objets du quotidien qu'on peut être amené à laisser traîner.
C'est ce qui fait leur charme aussi.
Exactement, c'est la spontanéité. Et puis ça fait toujours partie des surprises amusantes dans la clinique.